France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la Corée du Nord à la Coupe du Monde de football. En 2010, en Afrique du Sud, l'équipe nationale de ce pays surréaliste fait un passage éclair dans la compétition. Le temps de prendre trois valises, mais surtout de passionner les médias occidentaux par le secret qui entoure la sélection et les rumeurs les plus folles qui l'accompagnent. Tentative d'évasion de joueurs, sélectionneurs humiliés publiquement et condamnés aux travaux forcés. Sans qu'on sache discerner le vrai du faux, la Corée du Nord a encore nourri toutes les représentations mentales des Occidentaux sur la dictature la plus fermée du monde. Mais ce n'était pas la première rencontre du genre sur le terrain de football. En 1966, déjà, la confrontation est explosive et elle accouche de l'un des plus grands exploits sportifs et surtout, change profondément la géopolitique du ballon rond. Cette année-là, en Angleterre, la Corée du Nord ose battre l'Italie, la plus grande nation de l'histoire du football avec le Brésil et l'Allemagne. Angleterre 66, Afrique du Sud 2010, deux rares moments où les Nord-Coréens ont laissé entrevoir un peu de leur réalité. Notre invité aujourd'hui, Lucas Aubin, géopolitologue, spécialiste du sport et des régimes autoritaires, notamment la Russie, co-auteur d'un atlas géopolitique du sport avec Jean-Baptiste Guégan, paru aux éditions Autrement en 2022. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct et en partenariat aujourd'hui avec le journal L'Équipe, récit documentaire Bastien Jans, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Charles De Silia.
On est parti pour 90 minutes, voire plus, vous l'avez dit, une place en quart de finale face à l'Espagne. Se joue ce soir entre la squadra azzurra en bleu et les Coréens en blanc et rouge, avec un premier ballon récupéré par Cho Chin-cheol avec Yong Min-bo, Kim Tae-yong.
C'est un match historique qui se joue ce soir-là, ce soir du 18 juin 2002 à Séoul, entre la Corée du Sud et l'Italie. Bien sûr, les amateurs de football se souviennent de cette rencontre pour ses fautes d'arbitrage invraisemblables et scandaleuses au préjudice de l'Italie et de ce scénario fou débouchant sur la victoire des Coréens. Il est vrai qu'avec l'aide d'un arbitre partial, c'est bien, mais cet épisode, sportivement sordide, constitue aussi un point de départ d'une épopée qui, pour la première fois, mènera les Sud-Coréens en demi-finale d'une Coupe du Monde, la leur, celle qu'ils organisent de concert avec le Japon, ce qui aide aussi pour gagner des matchs. Donc, d'un point de vue sportif, l'exploit reste très relatif. Mais c'est surtout en tribune que s'écrit la grande histoire. Car au moment de l'entrée des joueurs sur le terrain, les supporters sud-coréens déploient un immense tifo que personne ne peut ignorer. Il y est écrit en anglais « Again 1966 », encore 1966. Autrement dit, refaites-nous le coup de la Coupe du Monde en Angleterre. Mais la banderole témoigne également d'un acte politique fort. Car en parlant de la Coupe du Monde 66, les supporters sud-coréens parlent en réalité de l'équipe nord-coréenne. Par la simple évocation de ce lointain souvenir, les supporters viennent de dresser un pont au-dessus de la frontière la plus infranchissable du monde, celle qui longe le 38e parallèle et qui sépare la péninsule coréenne en deux entités qui se regardent en chien de faïence, le sud capitaliste et le nord communiste. Au sud, un pays qui fait le choix de la démocratie, ce qui aide au développement économique, bien sûr, et même jusqu'au miracle économique. Au nord, isolé depuis 50 ans, dominé par un régime autoritaire épouvantable, un modèle économique erratique, comme beaucoup de dictatures, et qui ne fait que produire de la pauvreté. Le sud, lui, en pleine lumière, organise sa Coupe du Monde. Le nord, tapis dans l'ombre, cache ses terribles secrets, que l'on devine à peine à l'aune de quelques données récoltées. Famine récurrente, terreur politique, crime de masse. Mais que sont devenus les héros nord-coréens de 66? Seul un petit passage dans un ouvrage paru en France en 2001, quelques mois avant le mondial en Corée du Sud, donne un indice sur le destin de ces joueurs mythiques. Dans le documentaire intitulé « Aquarium de Pyongyang », Kang Chol-won raconte ses années passées dans un camp de travail. C'est le premier témoignage de cette nature publié en Occident. La scène qui nous intéresse se passe en 1987.
J'ai connu un détenu célèbre en Corée.
Il avait fait un très long séjour au cachot et s'était nourri systématiquement de tous les insectes qu'il avait pu trouver. Cela lui avait permis peut-être de tenir le coup. En tout cas, il y a gagné un surnom, on l'appelait le cafard. Park Seok-jung, de son véritable nom, avait connu son heure de gloire en 1966 lors de la Coupe du monde de football qui se déroulait en Angleterre.
Ce Park Seok-jung que le témoin mentionne fut bien un joueur de l'équipe de 1966, numéro 8, un ailier ultra rapide, réputé pouvoir courir le 100 mètres en moins de 11 secondes. Le témoignage du rescapé corrobore des rumeurs aussi invérifiables que persistantes. À leur retour à Pyongyang, les joueurs auraient été condamnés à des peines de travaux forcés, autrement dit esclaves, au sens premier du terme. Cet enfer concentrationnaire est le symbole de la violence exercée par le régime nord-coréen sur son propre peuple, dont au final, nous savons très peu de choses. Mais les quelques témoignages recueillis et les images satellites permettent d'estimer à plus de 200 000 le nombre de citoyens nord-coréens enfermés dans ces nombreux camps où ils sont astreints à des travaux harassants, privés de nourriture quand ils ne sont pas torturés ou exécutés. Coïncidence ou non, au moment où ce témoignage est publié, le pouvoir de Pyongyang sort de sa réserve. Daniel Gordon et Nicholas Bonner, des documentaristes britanniques, sont invités à se rendre en Corée du Nord pour rencontrer les footballeurs héros de 1966. Le documentaire, le match de leur vie, sort en octobre 2002. Et les lecteurs de Kang Shul Won sont surpris de découvrir l'un des protagonistes du film.
J'ai pris part à la 8e Coupe du monde de football. J'étais le numéro 7. Mon nom est Park Do-hik.
Voici notre arrière-droit, Han Bong-jing. Il était très rapide et créait de nombreuses occasions. Voici Park Seung-jin, ailier droit. Il a marqué à chaque match contre le Chili et le Portugal.
Tout le monde a fait de son mieux.
Park Seung-jin, le cafard, comme on le surnommait. Et bien là, avec un air timide, tout engoncé dans son uniforme militaire. Il témoigne et reçoit les éloges de ses coéquipiers. Mieux encore, dans une scène comme celle, le nord-coréen en secret, il pleure de manière très expressive la disparition de celui qui aurait été son tortionnaire.
Nous sommes ici aujourd'hui avec les joueurs qui ont pris part à la 8e Coupe du Monde pour montrer du respect à notre grand leader, Kim Il-sung. Être devant sa statue nous rappelle son soutien au football et l'amour qu'il nous a montré. J'aimerais qu'ils soient encore en vie. J'aimerais vraiment qu'ils soient parmi nous aujourd'hui.
Le film se conclut par ce carton significatif qui résonne comme une réponse. Des rumeurs circulent en Corée du Sud, répandant l'idée que les joueurs de l'équipe nationale ont été emprisonnés à leur retour à Pyongyang. Or, ces mêmes joueurs réfutent totalement ces allégations. La mise en scène orchestrée par le pouvoir nord-coréen est appuyée. Mais trahit-elle justement une supercherie? Les documentaristes de la BBC ont-ils été abusés? Mensonges occidentaux ou vérité nord-coréenne? Ou l'inverse, à l'image de tout ce qui touche au petit État communiste, l'incertitude plane autour du destin de sa mystérieuse équipe de foot. Seules restent les traces ineffaçables de cette première rencontre mémorable entre une équipe occidentale et la délégation du petit État monarcho-communiste, dirigée par un psychopathe menteur comme un arracheur de dents. En tout cas, cette année-là, en Angleterre, tout un peuple est impatient. Le football revient à la maison, car l'Angleterre est le berceau du foot, rappelons-le.
Depuis près de 5 ans, depuis que la Fédération Internationale de Football Association a choisi l'Angleterre pour organiser la 8e Coupe du Monde de football, tout un peuple travaille pour que ce soit un succès, sur le plan sportif bien sûr, mais aussi sur le plan commercial, car nombreux seront les touristes qui viendront spécialement en Angleterre à l'occasion de cet événement qui n'a lieu que tous les 4. La mascotte, le fétiche de cette Coupe du Monde, c'est Willy, le lion britannique. Autour de lui s'est créée une véritable industrie. En juillet, en Angleterre, il y aura des Willy partout. Sur les bols, les assiettes, les cartes à jouer, les chemises ou les porte-clés. Pour retransmettre cet événement hors série au monde entier, il y aura bien sûr la télévision. On évalue à près de 100 millions le nombre de téléspectateurs qui, dans le monde entier, verront les matchs de la Coupe Jules Rimet 1966.
On l'aura compris dans les mots du jeune Thierry Roland, pour cette 8e édition de la Coupe du Monde, Stanley Ross, le président britannique de la FIFA, a vu les choses en grand. L'objectif est de faire entrer ce sport dans une ère nouvelle de spectacles, de merchandising. Au-delà de toute espérance, puisque ce sport est aujourd'hui gangréné par le fric. Et si Ross a les idées larges économiquement parlant, en termes culturels, il semble avoir l'esprit un peu plus étriqué. La compétition, autrefois réservée aux seules nations européennes et américaines, s'ouvre pour la première fois à l'Afrique, à l'Asie et à l'Océanie, mais pour 16 candidats, une seule place est accordée pour ces trois continents. Autrement dit, un alibi ou un effet vitrine, comme vous voulez. Alors, comme un seul homme, la quasi-totalité des nations concernées décide de ne pas jouer les qualifications. L'Afrique, l'Asie et l'Océanie s'unissent dans un mouvement inédit de contestation, un boycott pour l'histoire. Ce qui est d'ailleurs assez logique. Pourquoi se battre les uns contre les autres pour ne récolter qu'une place en finale de la Coupe du Monde? Seuls deux pays profitent de l'aubaine. Les Australiens d'abord, dont l'équipe est composée de nombreux joueurs ayant connu les pelouses du championnat anglais, et la Corée du Nord, dont à vrai dire, dans les années 60, on ignore même qu'on y joue au foot. Officiellement, la fédération nord-coréenne, créée en 45, a rejoint la FIFA en 58. Mais celle-ci n'a jamais disputé le moindre match contre une nation de premier rang. Donc, son niveau est inconnu. En novembre 65, dans la capitale du Cambodge, Phnom Penh, les sélections australiennes et nord-coréennes se retrouvent donc pour disputer un double match de qualification. Une formalité pour les joueurs australiens, aussi condescendants qu'ignorants. Une erreur que ne refont pas, que ne feront pas les Nord-Coréens, comme le rappelle le défenseur Kim Sung-sang dans le documentaire de 2002.
Nous avons été impressionnés par la technique de l'Australie. Ils avaient une technique individuelle particulièrement bonne. Cependant, nous pouvions voir qu'ils avaient des faiblesses. Ils manquaient de travail d'équipe et ils manquaient de vitesse. Même s'ils étaient techniquement compétents, nous pouvions voir un moyen de rivaliser avec l'équipe australienne.
Esprit d'équipe et vitesse, les Coréens connaissent leurs propres qualités. Voilà près de 2 ans que le groupe s'entraîne avec rigueur. Kim Il-sung, le premier des Kim, autocrate qui règne sans partage sur le pays depuis 1953, veut faire de l'équipe nationale le fleuron de sa propagande. Son équipe a été forgée dans les préceptes du mouvement Cholima, du nom de ce cheval ailé ultra-rapide et indestructible que le régime a extrait de la mythologie coréenne pour en faire un symbole nationaliste. Un succès sur la planète foot serait évidemment un symbole fort pour prouver au monde que, depuis la partition avec le Sud en 53, la Corée du Nord est devenue une grande puissance. On l'a oublié, mais dans les années 60, tandis que le sud de la péninsule est empêtré dans un état de sous-développement terrible, c'est l'état du Nord qui s'est fait alors appeler le second dragon d'Asie, après le Japon. Mais oui, le territoire que gouverne Kim Il-sung concentre de nombreuses ressources minières et autres installations industrielles héritées des longues années de colonisation de la péninsule par les Japonais. Il a fallu cependant fournir un effort incroyable pour tout reconstruire, puisque le petit pays a subi durant la guerre l'une des plus amples campagnes de bombardement que l'armée américaine n'ait jamais menée. Près de 600 000 tonnes de bombes ont anéanti 18 des 22 plus grandes villes du pays. Depuis, la Corée du Nord vit en perpétuel état de choc et de guerre, situation aggravée par l'impéritie de ses dirigeants, tous issus d'une même famille qui a fait main basse sur toute une population. À l'instar du peuple qu'il représente, 30% des femmes et des hommes portent l'uniforme, les joueurs de football nord-coréen se doivent d'appliquer une discipline de fer et de montrer un dévouement sans faille envers leur chef qu'ils sont priés d'adorer comme un dieu, Kim Il-sung. C'est donc dans un camp militaire que le sélectionneur Yong Ryong-yoon, vétéran de la guerre de Corée, prépare son équipe pendant 2 ans.
Nous pensions que nous devions être prêts mentalement et physiquement. Être en forme, rapide et plein d'énergie. Notre grand leader nous a dit que pour être un excellent footballeur, il faut courir vite et frapper avec précision.
En ce mois de novembre 65 au Cambodge, les Australiens, mal préparés et sans panache, ne sont pas prêts pour faire face au Cholima. La preuve. 6-1 au match aller, 3-1 au retour, 9-2 sur l'ensemble des deux matchs, une bonne raclée, ce qui n'échappe pas aux spécialistes du foot en Occident. Le lendemain du match, à 10 000 km du Cambodge, Mr. Timms, agent du Foreign Office au service de Sa Majesté, fait parvenir un mémo sur le bureau de ses supérieurs. La Corée du Nord est la 16e équipe qualifiée pour le mondial. Je crains que nous ne devions faire maintenant face à un problème difficile. Et pour cause. Le Royaume-Uni, qui s'est engagé dans la guerre de Corée, ne reconnaît pas la République populaire démocratique de Corée, autrement dit la Corée du Nord. Difficile pour le Foreign Office britannique d'envisager de faire flotter son drapeau à l'étoile rouge en haut des stades et que retentisse son chant patriotique, comme le veut le protocole imposé par la FIFA. Aussitôt prévenu, Sir John Long, conseiller au sport du gouvernement d'Harold Wilson, concède avec un flegme tout britannique « Nous sommes tous, dans une certaine mesure, assis sur un volcan ». Aujourd'hui, la Corée du Nord en Coupe du Monde.
Affaires sensibles sur France Inter.
I am very pleased that this country is acting as host for the final phases of the World Cup. I welcome all our visitors and feel sure that we shall be seeing some fine football. It now gives me great pleasure to declare open the 8th World Football Championships.
Juillet 1966, stade Wembley à Londres, la reine Elisabeth II peut déclarer ouverte cette 8e édition de la Coupe du Monde de football. Sur la pelouse, des enfants en rang font défiler les drapeaux des différentes nations engagées dans la compétition. Celui de la Corée du Nord, l'invité surprise de cette édition, vient fermer la marche. Et c'est un soulagement pour tous les officiels anglais qui ont cru jusque dans les dernières semaines que la présence du petit État communiste allait tout faire capoter. Les négociations entre le Foreign Office britannique, le ministre des Sports et la FIFA ont été âpres, mais des compromis ont été trouvés. La République populaire et démocratique de Corée ne sera pas désignée comme telle, parce que les mots ont un sens tout de même, mais répondra au nom de Corée du Nord. Le drapeau communiste pourra flotter au-dessus des stades, mais pour l'hymne officiel, on a trouvé une parade idéale. Il est décidé que les hymnes ne seront joués qu'avant le match d'ouverture, Angleterre-Uruguay, et avant la finale. Comme il n'y a aucune chance que les Nord-Coréens l'atteignent, cette finale, l'affaire est dans le sac. Soit. Mais l'URSS s'offusque de toute cette mascarade et menace de se retirer du tournoi à quelques jours de l'ouverture. Juillet, Earlson Park à Middlesbrough. Les quelques curieux qui se pressent pour assister au match Corée du Nord-URSS, probablement le moins attendu de sa Coupe du Monde, ne se doutent probablement pas de toute la pression géopolitique qui pèse sur cette rencontre. Les joueurs de l'Union soviétique sont bien présents pour affronter l'équipe de Corée du Nord que France Football qualifie de pittoresque. 1-0, puis 2-0 et enfin 3-0. Les Nord-Coréens ne font pas le poids. Le Foreign Office peut souffler. Et Sir John Long reçoit un mémo rassurant à la fin du match.
Avec un peu de chance, on devrait bientôt en avoir fini avec les Nord-Coréens. J'ai été content de voir qu'au moins on avait raison de prédire qu'ils n'iraient pas en finale.
Ce que les agents du Foreign Office ne peuvent pas prévoir, seule la magie du football peut le produire. Cette défaite sans appel des Nord-Coréens a une conséquence inattendue. La ville et le public de Middlesbrough se prennent d'affection pour cette équipe d'outsiders. Il faut dire que, dans la petite ville ouvrière du Teesside, au nord-est de l'Angleterre, c'est la déprime. Middlesbrough a été relégué en 3e division, et voilà qu'un étrange transfert d'affection se produit de loser à loser, en quelque sorte. On veut voir les Nord-Coréens triompher. Le maire fait même hisser les couleurs du pays communiste sur le toit de la mairie, et déclare publiquement « Vous portez les mêmes couleurs que Middlesbrough, le rouge, nous serons derrière vous. » Face aux Chiliens, les Nord-Coréens sont encore menés, mais ne cèdent pas. Quant à la 88e minute, Park Sang-jin envoie une reprise de volée au fond des filets. Tout le stade explose d'une joie comme si Middlesbrough avait gagné la Coupe du Monde. C'est donc soutenu par toute une ville que la Corée du Nord se présente devant l'Italie avec une infime chance de qualification au tour suivant. Il faut gagner, mais en face, il y a un ogre du football mondial. Fort de 3 titres de champion du monde, l'Italie fait naturellement peur à tout le monde. Son maillot bleu azur, uni, simplement frappé de l'écusson couleur nationale, d'une élégance folle, impressionne. Mais cette année-là, l'équipe est traversée par le doute. Ses premiers résultats dans la compétition, premiers résultats récents, ne sont pas encourageants. Disons que l'équipe est sous pression. Face à elle, les Coréens sont survoltés, multipliant les contres et les attaques rapides. À la 34e minute, le meneur de jeu italien Bulgarelli se blesse. À l'époque, aucun changement n'est autorisé. L'Italie doit finir à 10. Dans la foulée, Park Dok-hik reçoit un ballon à l'entrée de la surface. Un but juste avant la mi-temps, le coup est fatal. L'Italie ne reviendra pas. L'Italie perd, l'humiliation est totale et restera gravée pendant de longues années. Pour la Corée du Nord, en revanche, la liesse est de mise. Voilà que s'ouvre la porte des quarts de finale. Euphoriques, les joueurs vont fêter la victoire dans les pubs et font la fête avec les habitants de Middlesbrough, s'affichant même avec des filles. L'information est importante, car c'est cet accès de bonheur jugé par le pouvoir bourgeoise, réactionnaire, pourri par l'impérialisme et ses mauvaises idées, aurait coûté aux joueurs leur emprisonnement dès le retour au pays. Le jour des quarts de finale, près de 3000 fidèles de Middlesbrough accompagnent les Nord-Coréens à Liverpool pour affronter le Portugal. La télévision française ne prend l'antenne qu'à la mi-temps et le score est pour le moins étonnant.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Vous pénétrez à Goodison Park à Liverpool à la mi-temps du quart de finale entre le Portugal et la Corée du Nord. Et comme ces images passent en différé, évidemment la plupart d'entre vous connaissent déjà le résultat et j'avoue que je les envie un peu. Car au moment où nous prenons l'antenne, à la surprise générale de tout le monde du football, peut-on dire, la Corée du Nord mène par 3-2. Ces Coréens du Nord que personne ne connaît, qui rentrent ici sur la pelouse d'Everton, maillot blanc, culotte blanche, mènent donc par 3-2 face aux Portugais qui sont devenus, depuis l'élimination du Brésil, depuis l'élimination de l'Italie, qui sont devenus les grands favoris de cette Coupe du Monde au même titre que les Anglais.
Et à ce moment précis, l'exploit est à portée. Mais les Coréens sont fatigués. Et face à eux, il y a l'un des plus grands joueurs de l'histoire, Eusebio, la panthère noire, le joyau de la dictature de Salazar, qui sort le grand jeu et qui écrase en quelques minutes les ardeurs nord-coréennes. Il inscrit 4 buts et le Portugal s'impose 5-3. C'en est terminé. Les joueurs de la Corée du Nord font leurs adieux à la petite ville ouvrière anglaise qui les a tant aimés et rentrent à la maison. Mais quel sort les attend ? La gloire nationale ou l'enfer des camps ? Personne n'en est vraiment sûr. Il faudra attendre 44 ans pour revoir les Nord-Coréens en Coupe du Monde et c'est en Afrique du Sud, en 2010. Cette compétition, présidée maintenant par le sulfureux Sepp Blatter, est devenue la grande messe cathodique qu'avait rêvé en son temps Stanley Ross. Et c'est donc sous les yeux de la quasi-totalité de la planète, le 15 juin 2010, que le favori naturel de toutes les Coupes du Monde, le Brésil. Une mystification qui dure encore de nos jours, alors que les Brésiliens sont piteusement éliminés depuis plus de 20 ans en 8e ou en quart de finale, la fausse valeur par excellence. Mais bon, c'est devant les Nord-Coréens que le Brésil fait son entrée dans la compétition. Au JT de TF1, on s'amuse de cette rencontre entre les deux extrêmes.
Le vacarme, le silence, le luxe, le confort spartiate d'un hôtel de bord d'autoroute. Brésil-Corée du Nord en deux images. Direction le camp de base brésilien, golf, spa, espace vert et des centaines de journalistes. Chez les Nord-Coréens, à quelques kilomètres de là, les caméras ne sont pas les bienvenues.
Vous ne pouvez pas rester ici.
Oui, on s'en va.
Au cœur du township d'Alexandra, les Asiatiques préparent leur Coupe du Monde, une première depuis 1966. Peu habitué aux conférences de presse, l'unique interlocuteur répond aux questions d'avant-match.
Qui est l'homme qui décide de la composition de l'équipe ?
Non, désolé, question suivante.
Bien sûr, il n'y a pas que le niveau de joueurs totalement inconnu en Occident qui attise la curiosité des observateurs. Non, les médias du monde entier tentent de s'approcher au plus près du très sécurisé centre d'entraînement de la sélection à Johannesburg. Car la presse entend bien s'engouffrer par cette fenêtre qui s'ouvre enfin sur le petit État totalitaire qui, de Kim en Kim, est resté tout aussi secret. Et que dire de la tension qui plane sur la frontière longeant le 38e parallèle ? En cet été 2010, la situation est critique après qu'un navire militaire sud-coréen a été coulé par un missile nord-coréen. Voilà tous les sujets que les journalistes voudraient aborder avec l'entraîneur Kim Jong-un, qui comme un automate déclare « Si nous gagnons, cela aura un fort retentissement et cela apportera beaucoup de bonheur à notre grand leader Kim Jong-il ». Le soir du 15 juin, Brésil-Corée du Nord s'ouvre par une scène stupéfiante. Le chant patriotique nord-coréen retentit dans le stade. À l'écran, quelques supporters avec le maillot rouge chantent en chœur, mais les médias occidentaux glousseront sur ces faux supporters qui sont en fait des Chinois. Les caméras de télé s'arrêtent, elles sur le visage subitement déformé par une crise de larmes de John Tae-se, l'attaquant star de l'équipe, surnommé le Rooney du peuple, en référence à l'intrépide joueur anglais Wayne Rooney. Voilà le guerrier, cheveux rasés qui s'effondre d'émotion à l'écoute de son hymne national. L'équipe nord-coréenne n'est décidément pas comme les autres. Et dans ce pays, pleurer devant les caméras est une seconde nature. Quand un Kim meurt, par exemple, la péninsule est noyée sous un océan de larmes mécaniques. Le match débute et les Coréens surprennent d'abord par leur combativité. Les Brésiliens ne sont pas brillants, mais tout de même largement supérieurs. Donc 1-0, puis 2-0 à 20 minutes du terme. Les Coréens n'inscrivent qu'un petit but à la 88e minute, sans incidence sur l'issue du match. Toute petite victoire d'un Brésil quelconque, et défaite honorable pour la Corée du Nord, mais défaite quand même. La suite sera moins convaincante. Contre le Portugal encore, la Corée s'écroule en deuxième mi-temps 7-0, avant de prendre l'eau contre la Côte d'Ivoire 3-0. 12 buts encaissés, un seul marqué, une sévère déculottée. Kim Jong-il peu déprimé. Mais ce ne sont pas tant les faibles performances de l'équipe nord-coréenne qui intéressent les médias occidentaux, mais les étranges racontars qui entourent la sélection. Dès le premier match contre le Brésil, l'absence notifiée sur la feuille de match de 4 joueurs fait naître une rumeur. Un gardien, 2 milieux et un attaquant, ils auraient profité de leur séjour en Afrique du Sud pour fuir leur pays. L'histoire se répand tellement vite que le directeur de la communication de la FIFA himself est contraint de démentir l'information. Un journaliste du Point raconte l'ambiance autour de la sélection ce jour-là.
Malgré la présence d'environ 200 journalistes de la presse internationale, la conférence de presse programmée vendredi à 17h n'a donc pas eu lieu. Les médias ont pu assister au premier quart d'heure de l'entraînement et prendre des photos, mais personne n'a répondu à leurs questions. Les journalistes ont été reconduits sans ménagement à la porte du stade par la police et un service d'ordre privé particulièrement zélé. Le responsable de presse de la FIFA, M. Glenn Gordon Watson, a, quant à lui, refusé de s'exprimer. Un journaliste de l'AFP a pu constater qu'il y avait bien 23 joueurs à l'entraînement, mais il n'a pas été possible de vérifier s'il s'agissait bien des footballeurs nord-coréens.
Et le trouble ne s'arrête pas là. Le 2 juillet 2010, Radio Free Asia, un média créé par la CIA, financé par le Congrès américain et qui émet en 9 langues dans toute l'Asie, rapporte la scène qui aurait suivi le retour de la sélection à Pyongyang. Devant 400 personnes, la vingtaine de joueurs et leur entraîneur auraient subi plus de 6 heures d'humiliation publique pour manquement à la lutte idéologique. Et l'entraîneur aurait été envoyé en camp de travail. L'information invérifiable est reprise par tous les médias occidentaux. La FIFA, sommée de réagir, lance une enquête. Ses conclusions sont sans appel.
La fédération nord-coréenne assure la FIFA que M. Kim Jong-un, principal entraîneur de l'équipe nationale, et que tous les autres membres de l'équipe nationale s'entraînent comme d'habitude. Avec l'ensemble des informations dont elle dispose, et ayant vérifié toutes ses sources, la FIFA a décidé de clore l'affaire.
Des informations portées par des médias américains, des démentis des officiels nord-coréens, une enquête de la très corrompue FIFA. On l'aura compris, les dernières données en notre possession pour raconter l'histoire de cette mystérieuse équipe de Corée du Nord de 2010 ne sont pas infaillibles. Et aucun documentaire britannique n'est venu pour l'instant confirmer ou infirmer ces informations. Le 15 octobre 2019, pour la première fois depuis 1990, la sélection sud-coréenne traverse la frontière qui longe le 38e parallèle pour aller affronter à Pyongyang la Corée du Nord dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022. Mais le match tourne à la guerre froide. Pas de spectateurs pour s'en souvenir, pas de caméra pour l'enregistrer. Le match n'existe plus que dans la mémoire de la poignée d'acteurs qui l'ont joué. Le vice-président de sa fédération, Chung Yong-in, évoquera après coup une véritable guerre sur le terrain. Le résultat 0-0 est anecdotique, puisque quelques semaines plus tard, la fédération de Corée du Nord se retire de ce tournoi de qualification, renonçant à l'idée de se rendre au Qatar, comme elle le fit précédemment pour les JO de Tokyo en 2020. Signal interrompu. Depuis 1966, l'équipe la plus mystérieuse du monde disparaît peu à peu des radars, fantôme du football moderne. Not that it ever was.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Aujourd'hui, la Corée du Nord en Coupe du Monde. Notre invité, Lucas Aubin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géopolitologue, spécialiste du sport et de la Russie, et surtout co-auteur d'un atlas géopolitique du sport avec Jean-Baptiste Guégan, paru aux éditions Autrement en 2022. Et vous avez consacré votre thèse au concept de sportocrature, notamment pour expliquer le modèle de la Russie de Poutine, mais j'imagine que ça va au-delà de la Russie de Poutine. Qu'entendez-vous par sportocrature, même si d'un point de vue sémantique, le mot nous dit quelque chose d'ailleurs?
Oui, évidemment. Bah, la sportocratura, c'est en fait la nomenclatura par le sport. C'est comment les régimes autoritaires en réalité, mobilisent toute leur élite, à la fois leur élite politique, sportive, mais aussi économique, pour justement construire un modèle politico-économico-sportif efficace. Et il s'avère que de nombreux États autoritaires, à la fois dans l'histoire, donc au XXe siècle, mais aussi aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut penser notamment au Qatar, par exemple, on peut penser évidemment à la Russie aussi, utilisent des modèles de ce type-là pour justement gagner, en fait, des rencontres sportives à l'échelle internationale, faire rayonner leur État et aussi contrôler un peu plus la population, parce que le sport a une vertu pour un dirigeant, c'est qu'il est aussi un vecteur cathartique, c'est-à-dire qu'il peut permettre de contrôler un peu plus la population.
Ouais, un esprit sain dans un corps sain. On connaît, hein.
Exactement.
Il y a un morceau de choix à ce niveau-là d'ailleurs, c'est le match en Coupe du Monde de football en 1974. C'était en Allemagne de l'Ouest, entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Et ce sont les Allemands de l'Est qui ont gagné. Et il paraissait assez évident que dans la propagande est-allemande, une victoire de l'équipe de RDA montrerait un modèle supérieur, un modèle social, sociétal et économique supérieur. C'est ça la logique?
C'est ça la logique. C'est-à-dire que au lendemain en fait de la Seconde Guerre mondiale, on a l'opposition entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, et l'Union soviétique et de manière générale les pays communistes intègrent en fait le sport mondial. Donc, c'est-à-dire rentre dans les institutions du type FIFA, CIO, UEFA, etc. Et en fait, on va assister à des confrontations régulières entre des équipes communistes et des équipes, du coup, capitalistes. Et évidemment, pour des régimes comme l'Allemagne de l'Est ou comme l'Union soviétique, par exemple, une victoire sportive, ça signifie une victoire de modèle. Et ça signifie donc que ce modèle capitaliste bourgeois, jugé bourgeois, est finalement inférieur au modèle soviétique communiste ou de l'Allemagne de l'Est communiste, puisque justement cette horizontalité du modèle permet en fait l'émergence quasi naturelle, et là je cite les mots de Lénine, de Staline, etc., l'émergence quasiment naturelle finalement d'athlètes de très haut niveau supérieurs aux athlètes capitalistes.
À ceci près qu'en principe les joueurs, notamment les joueurs de football, se contrefichent de ça. On a eu des témoignages de joueurs est-allemands qui, lorsqu'ils sont entrés sur le terrain, n'avaient pas en tête cette logique-là. Ils n'avaient qu'une logique sportive. Bon, donc ils sont manipulés en gros.
Oui, bien sûr, il y a cette manipulation qui existe dès leur plus jeune âge, généralement, dans ces modèles-là. C'est-à-dire que on est, en fait, avec l'idéal communiste, on vit dedans, on baigne dedans, et l'objectif, au final, c'est juste de performer et d'aller à l'étranger pour, justement, montrer la supériorité de son régime, mais sans mettre forcément de mots dessus. Et par exemple, ce qui est intéressant, c'est que il y a aussi l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que l'Union soviétique, par exemple, partait souvent à l'étranger faire des tournées via les équipes de hockey ou de football, par exemple, et souvent, en fait, des athlètes soviétiques en profitaient pour fuir, en réalité,
oui,
et passer à l'Ouest, parce que d'un coup, ces athlètes découvraient en fait un monde qu'ils ne connaissaient pas, parce que la propagande des régimes communistes souvent était si forte qu'elle permettait de contrôler l'information, et celle-ci ne rentrait pas. Et donc, par exemple, on sait que beaucoup d'athlètes soviétiques disaient, tiens, il y a énormément de jeans Levi's aux États-Unis, nous on n'a même pas la possibilité d'en acheter un seul. Et
ouais,
donc parfois ils revenaient avec ces jeans en URSS et ils étaient regardés un peu comme des extraterrestres avec leurs nouveaux vêtements.
Qui revient avec un bout de capitalisme.
C'est ça.
Est-ce qu'on peut dire que la matrice de la dimension géopolitique d'un sport, et en l'occurrence du football, est arrivée avec l'Italie de 1934?
Oui, je pense qu'on peut dire ça. Alors, il y avait eu quelques épiphénomènes avant, c'est-à-dire que on avait vu que l'argent arrivant dans ce sport, il y avait quelques conflits qui commençaient, mais c'est vraiment Benito Mussolini qui était le dictateur dirigeant de l'Italie à l'époque, qui a souhaité obtenir justement le mondial de football de 1934 et qui a souhaité en fait en faire une grande mise en scène de son régime. Et ça a fonctionné si bien que l'Italie a remporter ce mondial et qu'au moment de rendre, de remettre la coupe, finalement, Mussolini avait fait confectionner en amont une autre coupe que la coupe Jules Rimet, qui était la coupe traditionnelle du mondial de football. Et donc, c'était véritablement non pas une victoire de l'équipe italienne dans le football, c'était une victoire de l'équipe italienne grâce au régime de Mussolini, qui lui-même était plus fort que ça, puisqu'il avait conçu son propre trophée supérieur à celui de la FIFA.
On dit pour la petite histoire, plusieurs livres le disent, pas vérifiable, mais que Benito Mussolini a invité à dîner la veille de la finale, l'arbitre de la finale. On va se retrouver dans 3 minutes. On écoute Voyou qui chante Huis clos.
Je vis dans un film en huis clos. J'ai vu sur un enclos depuis ma cage. Je sais pas c'est quoi un bateau. Maman, montre-moi comment c'est qu'on nage. Si c'est ça mon environnement, autant tout quitter pour un banc de sable. J'ai vu bien assez de ciment. Je me prends à rêver devant des photos de plage. Regardez passer les bateaux qui nagent en faisant des nuages dans l'eau, sans jamais se lasser du son des vagues. La vie dans un rêve c'est beau. On s'ennuie le long d'un ruisseau bien sage, à jeter des cailloux dans l'eau, curieux de ce que se disent les cigales.
Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Lucas Aubin, il y avait peut-être quand même de la part de l'Union soviétique, par exemple, quelque chose de contre-productif à envoyer ses joueurs, ses sportifs en mission, on va dire, mais ça comportait quelques dangers, finalement.
Bah, ça comportait, oui, évidemment, quelques dangers, parce que il faut bien comprendre que la propagande soviétique était très forte, finalement, quand vous viviez à l'époque, que ce soit à Moscou, à Kiev, à Saint-Pétersbourg, vous viviez un peu en huis clos, finalement. L'information sortait peu, mais elle rentrait peu, également. Et donc, de fait, les athlètes, finalement, ils avaient cette spécificité qui faisait partie de ces rares citoyens soviétiques qui, en fait, faisaient des allers-retours. C'est-à-dire, partaient à l'étranger, dans des pays capitalistes, pas uniquement communiste, et revenaient, donc avec des informations du coup. Et souvent, ils étaient surpris, effectivement, puisque la propagande soviétique était très forte. Souvent, elle décrivait les mondes capitalistes comme des mondes où, justement, le chômage était très élevé, où la pauvreté, la crise était permanente, etc. Et au final, ils arrivaient dans ces pays-là, et souvent, l'image n'était pas conforme tout à fait à cette réalité, cette pseudo-réalité construite par le régime.
Même et ça les faisait rêver, d'ailleurs. Magasins à Chaland, les lumières partout.
Bien sûr.
C'est humain, hein.
D'un coup, il rentrait dans des magasins et on avait le choix d'acheter tel ou tel produit, ce qui évidemment n'était pas forcément le cas en Union soviétique où souvent on était un peu limité. Et donc, ces athlètes revenaient souvent avec des étoiles un peu dans les yeux, quand même, faut le dire, et pouvaient, s'ils en avaient l'opportunité, et notamment ils l'avaient, hein, dans la deuxième partie des années 80, pendant la perestroïka, justement, la reconstruction et la glasnost, la transparence, à ce moment-là, ils ont commencé à parler, en fait, ces athlètes, et à expliquer que, bah, ils avaient envie, eux, de partir à l'étranger. Ils avaient envie de jouer pour des championnats américains, canadiens, ouest-européens, etc. Et finalement, le régime souverain, à ce moment-là, a été contraint de les laisser partir. Et cet appel d'air a conduit notamment, pas uniquement, mais notamment, à la destruction de l'Union soviétique, puisque à partir du moment où ce régime s'ouvrait, bah, toutes ces supercheries étaient révélées à la fois à la population soviétique, mais aussi au monde occidental.
Bah, c'est bien ce que Poutine reproche à Gorbatchev. Il n'est même pas allé à ses funérailles.
Il n'est même pas allé à ses funérailles, qui est probablement...
Alors que Gorbatchev est l'un des hommes du siècle, du XXe.
Exactement, c'est une injure totale, bien sûr, et le régime de Poutine s'inspire effectivement de ça.
On y va justement, puisque vous êtes un spécialiste de la Russie et de Poutine, et de... Comment dire la
sportocratura.
Voilà. Parce que vous êtes un spécialiste. Est-ce que c'est la politique de Poutine par rapport au sport, tout ça?
Oui, bah, Poutine, ce qui est fascinant, c'est que quand il arrive au pouvoir fin 99, début 2000, la première chose qu'il fait quand il est élu, c'est qu'il fait venir son historique entraîneur de judo en limousine vitre teintée au Kremlin. C'est vraiment le lendemain de son élection. Donc son entraîneur, Anatoly Rakhlin, pour les intimes, était un entraîneur soviétique de Leningrad. Et selon la propre légende de Vladimir Poutine, grâce à cet entraîneur, il serait sorti finalement des ruelles malfamées de Leningrad, sans quoi, sans le judo, il serait devenu en réalité une petite frappe, et c'est ce qu'il dit. Et à partir de là, il n'a pas utilisé le sport uniquement comme un élément de structuration de son pouvoir, de son image, etc., ce qui est assez classique. Non, il a construit justement cette sportocratura, il a décidé de mettre en place un modèle extrêmement performant du sport pour attirer les grands événements sportifs de la planète en Russie, donc JO de Sochi 2014,
et Coupe du Monde,
coupe
2018.
Du monde de football 2018 notamment, mais il y en a eu évidemment beaucoup d'autres, et ça a contribué finalement à améliorer dans une certaine mesure l'image de la Russie à l'étranger. Le problème étant que Vladimir Poutine ne souhaitait pas uniquement accueillir ces événements sportifs, il souhaitait aussi les remporter. D'où la création de cette espèce de machinerie du dopage qui a été mise en place à partir de 2009 et qui a conduit finalement la Russie à remporter les JO de Sochi 2014 au classement des médailles, mais qui a aussi du coup contribué à faire de la Russie un pays paria d'un point de vue sportif, et pays paria qui l'est devenu encore un peu plus évidemment depuis le 24 février 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Il y a aussi l'exemple, mais qui est presque un contre-exemple finalement, des JO de Berlin en 36, qui on a l'impression que ça sert le pouvoir hitlérien, sauf que la programmation des JO de 36 est antérieure à l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Mais est-ce qu'il en a tiré bénéfice?
Alors, je pense qu'il y a comme souvent, les deux faces de la médaille en réalité, c'est-à-dire que il y a l'aspect positif de son régime. Oui, il a pu se montrer, faire le salut nazi avec son élite autour de lui, etc., et montrer finalement que son régime était capable d'accueillir un événement de cette ampleur et de faire en sorte qu'il se passe bien. En plus de ça, il faut savoir que c'était des JO assez modernes pour l'époque, déjà parce que le stade était évidemment énorme, mais aussi parce que c'était la première fois qu'on utilisait des écrans de télévision pour retransmettre justement l'événement. Alors, c'était pas des écrans de télévision qui étaient présents justement dans les foyers, etc. Bien sûr, ça n'était pas encore le cas, mais il y avait une pièce dédiée dans le grand stade de Berlin où vous pouviez regarder les événements sportifs se dérouler. Donc ça, c'était véritablement important. Après, évidemment, le sport a ceci d'intéressant qu'il est incontrôlable en réalité, ou pas complètement. En fait, c'est ça. Les régimes autoritaires souvent essaient de le contrôler totalement, mais ça n'est pas possible. Les supporters peuvent s'en emparer, les athlètes d'autres États également. Et en l'occurrence, Hitler souhaitait montrer la supériorité de la race aryenne. Le 100 mètres a été remporté par un athlète noir américain, Jesse Owens.
Ça n'est pas l'apanage non plus des dictatures, finalement. Certaines démocraties ont tenté de, pas manipuler, mais exploiter les résultats sportifs. Et je pense à l'Allemagne de 1954, qui gagne la Coupe du Monde. On est 9 ans après la fin de la guerre. Est-ce que cette victoire, qu'on appelle d'ailleurs le miracle allemand, parce qu'on ne s'y attendait pas, les Hongrois étaient des vrais artistes en face, ils ont perdu, les Allemands ont gagné. Est-ce que ça a contribué au retour de l'Allemagne, démocratique cette fois, dans le concert diplomatique?
Oui, bien sûr, ça y a contribué. En fait, le sport souvent est un peu à l'avant-garde en réalité de la place des sociétés dans le concert des nations. En fait, les résultats sportifs arrivent et ensuite on voit ces États rayonner. En l'occurrence, on est au début de la guerre froide, le communisme face au capitalisme, et l'Allemagne de l'Ouest, évidemment, a à cœur d'utiliser le sport pour, justement, peut-être potentiellement penser à la fois à un rayonnement, mais aussi à une réintégration de l'Allemagne de l'Est, à une reconstruction de l'Allemagne de manière générale, après la Seconde Guerre mondiale, etc. Et c'est dans cette logique-là, effectivement, qu'il faut comprendre cette victoire. De manière générale, les États capitalistes et démocratiques utilisent aussi, évidemment, le sport comme des instruments de pouvoir. Simplement, les modèles ne sont pas les mêmes, la façon de structurer le sport n'est pas la même non plus. Néanmoins, il ne faut pas du tout être naïf, évidemment. Je pourrais citer, justement, il y a 101 ans précisément, on est en 1924, on a les deuxièmes JO de Paris, justement, et à l'époque, les dirigeants français avaient interdit l'Allemagne, justement, de participer parce que l'Allemagne avait perdu la Première Guerre mondiale et c'était une façon de la punir. Donc, vous voyez, les États capitalistes aussi utilisent le sport comme à des fins politiques.
Et comment la gouvernance mondiale des sports, je pense au CIO, je pense à la FIFA, comment elle se positionne par rapport à tout ça? Alors, elle dit, non, c'est pas politique, nous sommes essentiellement sportifs, ce à quoi personne ne croit, évidemment.
Oui, évidemment, personne n'y croit. Alors après, c'est une forme de propagande, une forme de communication, évidemment. Il faut savoir que Pierre de Coubertin, dès l'origine, donc Pierre de Coubertin, le créateur du CIO en 1894, créateur des premiers JO modernes en 1896, avait dit, lui, que le sport devait être apolitique, qu'on devait séparer absolument sport et politique, etc. Le problème, c'est que dès l'origine, lui,
c'est impossible, de toute façon.
Il a pris, mais c'est surtout qu'il a pris des décisions politiques. Les premiers JO de Paris, d'Athènes, pardon, 1896, étaient interdits aux femmes et aux colonies. Donc deux décisions extrêmement politiques. Pour autant, il a continué à diffuser ce discours-là, discours qu'on retrouve encore aujourd'hui à la FIFA, discours qu'on retrouve encore aujourd'hui au CIO, effectivement. Et c'est un discours compliqué, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le piège de Coubertin, c'est qu'on doit composer avec une double réalité, à savoir le sport est politique, évidemment, par essence, mais pour autant, les instances, elles, disent qu'il ne l'est pas.
Et pour boucler la boucle, quand la Corée du Nord se présente à la Coupe du Monde en 66 et en 2010, faut-il lire ces moments comme des moments d'ouverture de la part du pouvoir ?
On peut le lire de deux façons, en réalité. Concernant le régime nord-coréen et sa nature, en réalité, je pense qu'il faut plutôt le voir, au contraire, comme une façon de tenter d'utiliser le sport pour le régime lui-même, mais il ne faut pas le voir comme une volonté d'ouverture. C'est une forme de test. On voit si on a le niveau, si on est capable, en fait, de performer au plus haut niveau. Et si c'est le cas, et bah, du coup, banco, parce que ça signifie que, en fait, on va pouvoir gagner, montrer au monde que notre régime est supérieur aux autres, etc. Mais regardez, à l'époque soviétique, Staline utilisait le sport, ça n'a pas du tout contribué à l'ouverture de l'URSS. En l'occurrence, le régime nord-coréen, je crois, chercherait plutôt actuellement à avoir un bon niveau sportif pour améliorer son image à l'étranger, mais pas du tout pour s'ouvrir.
Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Vous pensez que la Corée du Nord, qui a disparu quand même, hein.
Je pense que justement, il y a eu ces deux essais de 1966 et 2010. Globalement, ces deux essais ont été des échecs, surtout pour 2010.
2010, parce que quand même, 66, ça, on s'en souvient encore.
On s'en souvient encore.
Il suffit d'un match pour arriver au stade de l'exploit. À un match, et on s'en souvient.
C'est vrai, et on s'en souvient pendant effectivement des décennies, voire potentiellement des siècles. Mais depuis 2010, on sait que ça a été évidemment très compliqué. Et je pense que le régime aujourd'hui cherche plutôt à faire profil bas de ce point de vue-là pour éviter une honte nationale à nouveau.
Bien sûr. Merci infiniment Lucas Aubin, c'était passionnant.
Merci.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la Corée du Nord en Coupe du Monde 66, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Arnaud Caillé. C'était une émission donc en partenariat avec le journal L'Équipe qui publie aujourd'hui un article sur l'histoire que nous venons de raconter, article écrit par Bastien Jans, auteur pour Affaires Sensibles. C'est un partenariat.